Place Info.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur France Info pour le 8h30 France Info du dimanche sur France Info Radio, le canal 27 de la TNT avec Jean-Jérôme Bertolus, bonjour.
Bonjour Mathéo.
Chef du service politique de France Info, notre invité ce matin Jean-Jérôme est député du Vaucluse et candidat à la présidence des Républicains.
Bonjour Julien Aubert.
Bonjour.
Vendredi, le parquet antiterroriste s'est donc saisi de l'attaque au couteau perpétrée au sein de la préfecture de police de Paris la veille. Christophe Castaner avait affirmé que l'assaillant n'avait jamais présenté de difficultés comportementales ni le moindre signe d'alerte. Éric Ciotti, votre collègue, député LR des Alpes-Maritimes, demande sa démission, on l'écoute.
Soit il a dissimulé des éléments dont il disposait, et c'est extrêmement grave, sur le profil de cette personne, soit il les ignorait, c'est encore plus grave. Donc aujourd'hui, il a perdu toute crédibilité pour assumer ses fonctions.
Julien Aubert, vous demandez à votre tour ce matin la démission du ministre de l'Intérieur.
Oui, je pense que le ministre a menti, il doit donc démissionner.
Il a menti, il n'a pas présenté les informations qu'il avait à sa disposition au moment où il fait cette intervention seulement ?
De toute évidence. On apprend qu'un individu qui travaille au cœur de la préfecture de police de Paris se félicite des attentats de Charlie Hebdo, qu'un signalement est fait en 2015, et lorsque on pose la question au ministre en 2019, celui-ci répond « non ». Il n'y avait aucun signe de radicalisation.
On l'a appris après. Hein. Certaines choses ont été apprises après.
On l'a appris après. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le cabinet du préfet de police de Paris pouvait être au courant de cette affaire ? Et est-ce que le ministre pouvait être lui aussi au courant ? À ces questions, il suffit de chercher un peu. Qui était le directeur des ressources humaines en 2015 à la préfecture de police de Paris lorsque le signalement a été fait ? Moi, j'aimerais bien qu'on enquête.
Vous avez la réponse. Pourquoi vous posez cette question ?
Parce qu'actuellement, il est directeur de cabinet du préfet de police de Paris. Et donc, qu'on ne me dise pas que le préfet de police de Paris ne pouvait pas être au courant qu'il y avait eu un signalement en 2015. Ensuite, qui était le directeur de cabinet du préfet de police de Paris au moment où nous avons fait, où il y a eu ce signalement en 2015 ? La réponse est M. Nunez. Donc qu'on ne me dise pas, si vous voulez, que dans l'un et l'autre cas, la préfecture de police de Paris et le ministre de l'Intérieur ne pouvaient
mais
pas être
pourquoi,
au courant.
Mais pourquoi Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, aurait, selon vous, menti ?
Ça n'est pas la première fois qu'on cherche à dissimuler des informations aux Français.
Quelques heures après la tuerie, dans quel but ?
Soit c'est de la légèreté. C'est-à-dire que M. Castaner a répondu trop vite ou en se disant de toute façon ils vont pas inquiéter les Français, ça ne se saura pas. Soit c'est une volonté effectivement de dissimulation pour des raisons qui le regardent. Mais quoi qu'il en soit, il a menti. Il ne pouvait pas ne pas être au courant.
Pour en revenir à Christophe Castaner, et ensuite on passera à ce que propose et réclame Édouard Philippe ce matin, notamment dans les colonnes du journal du dimanche. Il doit démissionner par rapport à ça, à cet événement-là, à cette crise-là, ou par rapport à sa gestion du ministère et du maintien de l'ordre depuis plusieurs mois.
Moi, je trouve que, d'un point de vue général, il a plusieurs reprises montré qu'il n'était pas à la hauteur de sa fonction. Je me rappelle quand même des interrogations par rapport à la mort de ce jeune homme, Steve.
Bon, Steve Maria Canisso, à Nantes, lors de la fête de la musique.
Voilà, j'avais, si vous voulez, à cette époque-là, essayé d'être compréhensif par rapport à l'action de l'administration, mais enfin, on se posait quand même des questions sur l'usage proportionnel de la force. Il y a eu, évidemment, l'épisode des Gilets jaunes, il y a eu les conséquences de l'affaire Benalla, ça commence à faire beaucoup sur un CV d'un ministre de l'Intérieur. Et là, il ne s'agit pas, il y a quand même 4 personnes qui sont mortes.
Julien Aubert, ce matin, dans le JDD, Édouard Philippe, le Premier ministre, demande à l'inspection du renseignement, à la fois, bien sûr, d'auditer toutes les procédures au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, mais au sein également de tous les services de renseignement français en première ligne contre la lutte contre le terrorisme. On peut penser à la DGSE, à la DGSI. Vous approuvez cette demande du Premier ministre ?
J'approuve, mais si vous voulez, c'est comme essayer d'empêcher l'incendie sans se demander pourquoi est-ce que des gens se baladent avec des allumettes ou des briquets dans la forêt. En l'occurrence, le problème est surtout comment est-ce que, au cœur du dispositif de sécurité de la capitale, dans une unité qui fait du renseignement antiterroriste, un individu peut se féliciter d'attentats, d'autres collègues faire un signalement, et qu'à aucun moment cette information n'est utilisée. C'est ça le problème. On peut mettre toutes les procédures qu'on voudra, si on ne les respecte pas, on n'arrivera jamais à combattre efficacement
le terrorisme. Mais est-ce que la demande du Premier ministre sur effectivement cette mission au sein des services de renseignement, est-ce qu'évidemment le fait que le parquet antiterroriste se soit saisi de cette tuerie intervenue à la préfecture de police, on peut se demander à quoi va servir la commission d'enquête que vous demandez par la voix de Christian Jacob, que vous souhaitez installer mardi.
Alors vous savez que justement, lorsque la justice se saisit d'un sujet, ça empêche une commission d'enquête, puisque une commission d'enquête, j'en ai présidé une jusqu'à juillet dernier, ne peut pas se saisir d'affaires qui sont traitées par la justice. Donc on pourrait y voir, si on avait un esprit mal tourné, peut-être l'idée que ça bloque du coup une action parlementaire. Moi je crois dans cette histoire que dans un premier temps on a tenté de verrouiller l'information, que c'est un certain nombre de policiers internes et de sources intérieures à la maison en ont assez qu'on raconte n'importe quoi à l'extérieur et qu'à un moment donné la justice a bien été obligée de se saisir du dossier.
Le fait que les services de renseignement n'aient pas détecté les signes de radicalisation d'un agent pourtant sous leur nez, est-ce que c'est un scandale d'État selon vous? Et est-ce que ça pose question, est-ce que ça vous inquiète sur la surveillance du terrorisme en général en France aujourd'hui?
Moi je crois que c'est au-delà des morts qu'évidemment nous pleurons tous, c'est psychologiquement un attentat terrible. Parce que pour les Français qui nous regardent, si le service antiterroriste n'est pas capable de détecter à l'intérieur les menaces, comment peut-il les détecter à l'extérieur? Si il n'est pas capable de protéger la préfecture de police de Paris, comment est-ce qu'il peut assurer demain aux Français qu'on les protégera? Donc en réalité, c'est la crédibilité du dispositif qui est ici mis en cause.
Donc vous maintenez la demande de commission d'enquête, et j'ajouterais, est-ce que, comme Bruno Retailleau, le patron de LR au Sénat, vous souhaitez que Christophe Castaner s'explique devant la représentation nationale?
Oui, je pense que ça peut être positif. Maintenant, je pense qu'au moment où la commission d'enquête sera faite, M. Castaner ne sera plus ministre, parce que si j'étais président de la République, j'en tirerais aujourd'hui les conséquences. Il y a des gens qui augmentent votre solitude rien que par leur présence. C'est pas de moi, c'est de Sacha Guitry.
Julien Aubert, vous serez aujourd'hui dans le cortège pour manifester contre l'extension de la PMA à toutes les femmes. Vous allez nous en parler dans un instant. Vous restez avec nous à 9h20 sur France Info. On refait un point sur l'actu avec Édouard Marguier.
On ne peut pas priver de père un enfant volontairement, a déclaré la présidente de la Manif pour tous, Ludovine de la Recherche, sur France Info. Elle appelle à participer à la manifestation nationale à Paris des anti-PMA pour toutes. Les organisateurs ont donné rendez-vous près du Sénat à partir de 13h. Au sein des services de renseignement, aucun signe de radicalisation ne peut être méconnu ni rester sans réponse. Le Premier ministre Édouard Philippe le dit comme ça dans le journal du dimanche après la tuerie de la préfecture de police de Paris. Il commente deux missions d'évaluation des agents de la lutte antiterroriste. Le chef du gouvernement annonce également qu'il n'y aura pas de baisse d'impôt sur le revenu en 2021 après avoir rappelé que le gouvernement a diminué cet impôt de 5 milliards d'euros pour l'an prochain. Le mouvement Extinction Rebellion lance une semaine d'action. Des centaines de militants ont occupé le centre commercial Italie 2 de Paris pendant toute la journée d'hier et une bonne partie de la nuit. Objectif quart de finale pour l'équipe de France de rugby. Les Bleus affrontent les Tonga à 9h45 dans le Mondial au Japon. Une victoire ou un match nul suffira à les qualifier.
France Info. Et tout est plus clair.
Le 8:30, France Info avec Julien Aubert. Aujourd'hui, une vingtaine d'associations appellent à manifester donc à Paris contre l'extension de la PMA à toutes les femmes. Vous serez dans le cortège. Pourquoi? Pour quelles raisons personnelles y allez-vous? Raisons personnelles et ou politiques? Et est-ce que vous espérez qu'il y ait autant de monde qu'en 2013 lors des manifs contre le mariage pour tous?
Moi, j'y vais principalement pour trois raisons. Premièrement, je suis hostile à cette extension de la PMA parce que je considère qu'elle mènera à la gestation pour autrui, à laquelle je suis extrêmement hostile pour le coup.
Deuxièmement, elle mènera, mais pour l'instant, ce n'est pas dans la loi.
Eh bien, pour l'instant, maintenant, c'est dans la loi, puisque je vous rappelle que jeudi tard dans la soirée, contrairement aux dénégations qui avaient été faites par le gouvernement, la majorité a voté effectivement de facto l'extension de la GPA. C'est donc ma deuxième raison.
Le gouvernement a réitéré le fait que cet amendement, eh bien, serait revu, nouveau vote, et effectivement qu'il n'aurait pas d'avenir.
Très bien. Nous verrons si la majorité suit le gouvernement. Et la troisième raison, c'est que On nous a expliqué qu'en réalité, il était ringard, quelque part un peu sulfureux, de venir manifester. Bon, eh bien, puisqu'on m'explique qu'il n'est pas bon d'aller manifester pour ses convictions,
qui
par définition, d'abord, même certains de mes collègues, et puis ensuite, je dirais une petite partie du Paris qui pétille. Donc, puisque, si vous voulez, on m'a expliqué qu'il ne fallait pas y être, j'y serai. Et puisqu'on m'a expliqué qu'il ne fallait pas porter l'écharpe tricolore, je la porterai. Parce qu'à un moment donné, la droite, c'est aussi la liberté. Et qu'à un moment donné, on a le droit de ne pas être d'accord avec cette loi.
Mais justement, la droite était contre le PACS en 1989, contre le mariage pour
98,
contre le mariage pour tous en 2013. Aujourd'hui, vous êtes contre la PMA. Vous incarnez cette droite qui refuse toute évolution de la famille dans la société.
Alors moi, je n'étais pas en 98 député. Je suis beaucoup
mais vous
plus jeune.
Déjà engagé.
Non, mais moi, j'étais pour. Enfin, le mariage homosexuel, j'étais pour. Je suis beaucoup plus réservé sur l'adoption et je pense qu'en réalité, nous avons ici sur la PMA comme la GPA, en fait, un bloc qui est le sujet de la filiation. Et donc la question doit être posée au sein de notre mouvement politique. Si je suis élu président des Républicains, eh bien, je poserai cette question à nos adhérents. Est-ce que nous sommes prêts, oui ou non, à revenir éventuellement sur le volet filiation de la loi Taubira, c'est-à-dire qui engage la PMA et la GPA, parce que juridiquement, c'est un ensemble. Ou est-ce qu'on considère que c'est impossible pour des raisons politiques, pour des raisons qu'il resterait à déterminer, et dans ce cas-là, arrêtons la comédie, arrêtons le théâtre. Moi, je crois, si vous voulez, qu'une droite qui n'est pas une conservatrice, une droite qui est en fait une gauche de retard, une droite qui défend le temple qu'elle n'a pas construit et contre lequel elle a aboyé, eh bien, c'est une droite qui ne sert à rien.
Justement, vous êtes un petit peu isolé, et en quelque sorte, vous le revendiquez. Et qu'est-ce que c'est que cette droite qui va défiler à travers vous tout à l'heure, aux côtés de Marion Maréchal, aux côtés de Nicolas Bay, élu du Rassemblement National? C'est quoi?
C'est une autre droite qui est beaucoup plus
focalisée.
Non, parce qu'on peut défendre des positions, si vous voulez, sans avoir les mêmes arguments. Vous savez, Marine Le Pen aime le couscous, j'aime le couscous, et donc j'aime Marine Le Pen. C'est un sophisme, mais en réalité, qui ne démontre rien, si vous voulez. Je n'y vais pas pour les mêmes raisons. Moi, je vous ai expliqué les raisons. Mais c'était pas parce que d'autres y vont, pour des raisons d'ailleurs qui peuvent converger ou pas, que je devrais m'exclure. On va pas organiser plusieurs manifestations.
Est-ce que vous défilez aujourd'hui contre un groupe de personnes? C'est déjà ce qu'on avait évoqué lors des manifestations contre le mariage homosexuel, le mariage pour tous. L'impression que on défile finalement pour refuser qu'une catégorie de population, en l'occurrence là les couples de lesbiennes ou les femmes seules, obtiennent les mêmes droits que les autres. Donc finalement, on a l'impression que, enfin, les partisans de l'extension de la PMA pour toutes ont l'impression que vous leur empêchez d'accéder à ce droit et donc d'obtenir un progrès social. Qu'est-ce que vous répondez?
Il faut se méfier. D'abord, est-ce que c'est un progrès? Je ne crois pas que... Parce que pour moi, la PMA va vers la GPA. Vous verrez que juridiquement, la méthode égalitariste de lutte contre les discriminations fait qu'une fois qu'on aura ouvert ce droit pour des couples de femmes, eh bien, n'importe quel couple d'hommes dira « Mais dans ce cas-là, moi, je n'ai pas le même droit. » Donc, c'est sans fin. Et donc, si vous voulez, est-ce que c'est un progrès social? Moi, je regarde ce qui se passe. Je ne crois pas que commander le ventre d'une femme à distance, je parle de la GPA, soit un progrès. Ensuite, est-ce que permettre... De le point de vue de l'État, la création de familles monoparentales dès l'origine, puisque l'extension de la PMA n'est pas que pour toutes, une femme seule pourra le faire. Est-ce que c'est un progrès? Moi, je ne le pense pas. Et je crois qu'il y a des contradictions dans notre société. On explique aux hommes que aujourd'hui la place du père est essentielle dans la construction d'un enfant, qui doit être là dès les premiers mois de la grossesse. C'est Madame Dolto, d'ailleurs, qui l'a très bien expliqué. Et de l'autre côté, on explique qu'on peut avoir, dès le début, des familles sans père. Donc à un moment donné, il va falloir régler un certain nombre, je dirais, de contradictions inhérentes. Enfin, quand on parle de droit, il faut faire attention, parce que vous avez des donneurs de gamètes qui sont en nombre réduit, 200 à 300. À partir du moment où vous augmentez le nombre de gens qui pourront effectivement avoir ces gamètes, eh bien vous réduisez les droits des autres, parce que vous aurez mécaniquement un phénomène de file d'attente.
Julien Aubert, on parlait de Marion Maréchal. Éric Zemmour est intervenu le week-end dernier au colloque organisé par Marion Maréchal. Vous lui avez apporté votre soutien, est-ce qu'en tant que député de la nation, est-ce qu'en tant que candidat à la présidence de LR, ça ne vous gêne pas d'apporter votre soutien à quelqu'un qui vient d'être condamné pour incitation à la haine?
Alors, ça me permet d'ailleurs de rectifier. Je n'ai pas apporté mon soutien à Éric Zemmour. J'ai dans un premier temps expliqué que j'étais pas d'accord avec les mots qu'il avait utilisés. Sur le diagnostic, on pourrait en discuter. Je crois effectivement qu'il y a un problème d'immigration dans ce pays. Je crois qu'il y a un problème d'islamisation dans ce pays. Je crois qu'il y a des problèmes de zone de non-droit.
De grand remplacement?
Je ne crois pas au grand remplacement, je l'ai dit. Et je ne crois pas que si, enfin, en tout cas, Drieux-La Rochelle ne figure pas dans mes lectures du soir.
Après. Et Voltaire? Parce que vous avez utilisé une phrase de Voltaire qui n'est pas de lui.
Mais du coup, c'est moi qui l'apprends et je suis très heureux d'être l'auteur de cette phrase.
Sur le fond, encore une fois.
Non, mais je crois, si vous voulez. Mais Chomsky, vous savez, disait la même chose. Si vous voulez pas Voltaire. Chomsky disait, Goebbels était favorable à la liberté d'expression tant que on allait dans ce sens. Staline, la même chose. Il faut être favorable.
Sur le fond.
Moi, je suis
vous
favorable.
Vous êtes député de la République.
Moi, je suis favorable.
Vous appliquez les lois.
Je suis député de la nation. Je suis favorable d'abord à la liberté d'expression. Et je crois que lorsqu'on dit Zemmour est criminel, aujourd'hui, l'actualité le montre. La vraie criminalité, elle ne vient pas de la dénonciation d'Éric Zemmour, elle vient d'un adversaire contre lequel nous sommes lâches, et publiquement lâches. Et ce n'est pas en convainquant les millions de Français qui aujourd'hui voient le problème et qui pensent que Éric Zemmour les dénonce correctement, ce n'est pas en le bâillonnant, en faisant un martyr, que vous réglerez le problème de fond.
On a l'impression quand même...
Ensuite, je ne suis pas très favorable à la pénalisation de la liberté d'expression.
Aubert, on a quand même l'impression qu'à travers votre candidature à la tête des Républicains, vous incarnez en fait une droite vraiment, on va dire, dure. Et est-ce que vous allez dans le sens, finalement, des sympathisants de votre parti, LR, qui à travers tous les sondages expriment que oui, il faudrait un rapprochement avec le Rassemblement National?
Je crois que ce que les Français aujourd'hui veulent de droite, c'est gagner parce qu'ils en ont assez qu'on leur impose. On le voit d'ailleurs sur
les sujets. Quels que soient les moyens de gagner, avec éventuellement en se rassemblant avec...
C'est la question qui est posée. Moi, je pense que c'est une erreur aujourd'hui de... les gens qui disent l'union des droites, en fait, veulent gagner. Mais... Si on applique tactiquement l'union des droites, ça veut dire que vous avez Madame Le Pen, Marine Le Pen, comme candidate à l'élection présidentielle. Sans parler même d'idéologie ou de fond, sa simple prestation au second tour a suffi à la disqualifier. Et je crois que c'est une erreur. Vous ne gagnerez pas une élection présidentielle sur des alliances de mouvements ou de partis, vous la gagnerez sur un projet qui ne sera pas, comme vous le dites, un projet dur. Parce qu'on peut être ferme sur ses convictions et en même temps avoir une dimension ambitieuse pour ce pays. Et j'ai d'ailleurs écrit une tribune sur la manière de réduire la fracture sociale. On me cite souvent sur la droite du parti, il faudrait aussi me lire sur la gauche du mouvement.
Alors vous avez parlé d'une élection, il y a une élection à la tête du parti justement qui est prévue dans 6 jours chez les Républicains. On en parle dans un instant, on va évoquer également les municipales. Il nous reste un peu moins de 10 minutes et à 9h10 on retrouve Édouard Marguier pour l'info.
Après la tuerie de la préfecture de police de Paris, le ministre de l'Intérieur doit prendre ses responsabilités, déclare sur France Info Éric Pouya, député LREM de Gironde. Il est co-auteur d'un rapport sur les services publics face à la radicalisation. Christophe Castaner est l'invité du 13h de TF1. Les anti-PMA pour toutes espèrent mobiliser autant que lors des manifestations contre le mariage pour tous il y a 7 ans. Ils manifestent aujourd'hui à Paris à partir de 13h. Les militants d'Extinction Rebellion ont finalement décidé de quitter les lieux. Des centaines de militants écologistes ont occupé le centre commercial Italie 2 à Paris toute la journée d'hier et une bonne partie de la nuit, symbole du capitalisme selon eux. Ce mouvement promet d'autres actions cette semaine. Hugo Lloris ne reviendra pas sur les terrains de football avant de longues semaines. Le gardien de l'équipe de France s'est luxé le coude après une lourde chute pendant un match avec son club de Tottenham. Il ne jouera donc pas contre l'Islande vendredi prochain et la Turquie dans 10 jours. Les All Blacks écrasent la Namibie au Mondial. Au Japon, les rugbymen néo-zélandais viennent de l'emporter 71-9 après avoir inscrit 11 essais.
France Info.
Le 8h France Info avec Jean-Jérôme Bertolus et Julien Aubert, député du Vaucluse.
Julien Aubert, l'élection du président de LR, premier tour samedi prochain. Vous êtes 3 candidats, vous-même, Christian Jacob, Guillaume Larrivé. Il semble que Nicolas Sarkozy ait déjà choisi son candidat. On l'écoute, il était à Provins hier.
J'aime beaucoup Christian Jacob, qui a été un ami fidèle, solide. Pendant toutes les années où j'étais moi-même président de la famille, où j'étais président de la République. Pour moi, la fidélité, c'est quelque chose d'important. Je ne veux pas me mêler d'un débat interne. Mais si vous me demandez, est-ce que j'aime Christian Jacob et est-ce que je lui suis reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi, la réponse est oui.
Julien Aubert, est-ce que vous êtes mieux placé que Christian Jacob pour affronter la crise existentielle de la droite ?
Je pense oui, puisque sinon je n'aurais pas présenté ma candidature. D'abord, je fais un diagnostic totalement inversé par rapport à celui de Christian Jacob, qui veut d'abord réouvrir les portes et les fenêtres, faire revenir les gens qui sont partis, et ensuite définir une ligne. D'abord l'unité. Moi, je souhaite plutôt d'abord de définir une ligne, le retour à une ligne gaulliste. J'ai d'ailleurs écrit un ouvrage qui s'appelle Emmanuel le faux prophète, qui explique en quoi le gaullisme d'ailleurs est une matrice totalement inversée au macronisme, parce qu'on croit en la nation. Et puis à partir de cette ligne, effectivement, que les Républicains aient une identité. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop dans l'hétérogénéité, vous le voyez bien d'ailleurs sur la PMA. On ne peut pas être toujours pour et contre tous les sujets.
Vous prenez, alors je disais, hein, samedi, premier tour, vous attendez un deuxième tour?
Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, chez les adhérents républicains, il y a une volonté, on sent qu'on est à la fin d'un cycle, et il y a une volonté de renaître, et je crois que choisir un président d'une nouvelle génération qui est peut-être moins lié aussi aux erreurs du passé, parce qu'à un moment donné, il faut faire aussi un peu l'inventaire de ce que nous avons fait, ça permettrait de repartir différemment.
Il y a une hémorragie chez LR depuis les européennes, depuis même la présidentielle. Vous attendez combien de votants samedi ?
Moi, je crois qu'on va tourner autour de 35-40 000 votants, parce que ceux qui avaient repris leur carte en 2019 étaient 50 000.
Très loin des chiffres officiels de plus de 100 000 adhérents.
Il y a 130 000, parce qu'on a pris aussi les adhérents de 2018. Maintenant, le fait d'avoir plusieurs candidats à l'élection permettra vraisemblablement d'augmenter le suspense.
Donc, il y a cette échéance pour vous, dans 6 jours, à la tête du parti, et puis l'échéance suivante, c'est au mois de mars, les municipales. Vous restez sur une claque aux européennes, vous assumez le terme de claque, Vous n'avez pas peur d'une nouvelle déconvenue au municipal, même si c'est un scrutin très particulier, on le rappelle chaque semaine sur France Info, sachant qu'il y a beaucoup de maires, les Républicains, qui se rallient ou ont envie de se rallier à La République En Marche ?
Ah, pas du tout. Moi, je pense que ça va même être l'inverse. Je suis même prêt à prendre le pari ici, aujourd'hui. Les municipales, c'est un...
L'inverse, c'est-à-dire avec des gens de La République En Marche qui vous
rejoignent? Non. Je crois que ça va être l'inverse des européennes. C'est-à-dire que les européennes, c'est un scrutin éloigné, très politisé, très partisan. Les municipales, au contraire, vous choisissez un homme, une équipe. On a beaucoup de sortants de droite. Donc, je pense qu'en réalité, nous allons bien résister. Pas forcément parce que le parti se portera mieux, enfin si je suis élu président j'espère qu'il se portera mieux, mais principalement parce que ils auront des bons bilans, et tous ceux qui aujourd'hui vacillent en se disant pour avoir 7 ou 8% de La République En Marche, parce que vous verrez qu'il y aura beaucoup de ces candidats inconnus qui vont en fait avoir des scores en dessous de 10%, perdre le bloc de gens qui aujourd'hui votent à droite, c'est moi en tant qu'électeur, quelqu'un qui ne sait pas exactement où il habite, ça me donnerait plutôt envie de sanctionner au premier tour.
Vous savez où Jean-Luc Moudenc, à la tête de Toulouse, habite? C'est un sortant LR alors qu'il négocie avec La République En Marche. Vous savez où Christian Estrosi habite, le maire de Nice, qui négocie également avec La République En Marche?
Alors vous êtes peut-être bien informé. Moi, ce que je sais, en tout cas pour Jean-Luc Moudenc, c'est que c'est quelqu'un qui a une majorité composite, qui sort, je dirais, d'un mandat.
Ce sont toujours des élus républicains pour vous?
Vous avez effectivement un grand nombre d'élus LR. Alors il va peut-être élargir un petit peu plus à la société civile, mais après les choses sont très claires. La question est de savoir, est-ce que oui ou non ces maires vont demander une investiture de La République En Marche? Quelqu'un qui demande une investiture Les Républicains et En Marche, c'est pas possible. Donc si je suis élu président de la République, des Républicains, c'est très simple, il n'y aura pas, je dirais, d'investiture commune avec un autre parti.
Si Éric Ciotti se présente à Nice, vous lui apporterez votre soutien?
S'il est investi par la Commission nationale d'investiture, oui.
On parlait de La République En Marche, mais il y a un autre danger pour vous, c'est le Rassemblement national qui théorise, et ils l'ont fait d'ailleurs ici sur ce plateau, la stratégie dite de l'irrigation, c'est-à-dire que vous avez une commune, une municipalité Rassemblement national, et l'idée, c'est de gagner les communes environnantes. Vous êtes député du sud-est de la France, où le RN souvent fait des bons scores. C'est une inquiétude pour vous? C'est votre principal adversaire politique, le Rassemblement national?
Dans le sud, en Vaucluse, certainement. D'ailleurs, j'ai une liste à Carpentras, Union des droites, qui porte déjà mal son nom, puisqu'il y a une liste de droite qui est celle de mon suppléant, Claude Melchior, et que je soutiens. Voilà, mais après, vous savez, tous ces gens-là réfléchissent comme si les villes étaient des petits carrés de sable où on mettait un petit drapeau. Les électeurs, ils sont pas comme ça. Moi, je suis un habitant de Rouen ou de Carpentras. Ce que je souhaite, c'est quel va être mon maire? Est-ce qu'il va effectivement avoir une politique pragmatique par rapport aux besoins de ma ville? J'en ai rien à faire, si vous voulez, d'avoir un pavillon.
Mais est-ce que le RN est un danger pour vous, pour les Républicains en général?
Le RN est un danger parce que nous ne savons pas aujourd'hui où nous sommes. Le jour où la droite défendra le peuple français, vous verrez que le Rassemblement national, qui est une pâle copie du gaullisme, ne sera plus une menace.
Une dernière question sur les municipales. Marseille, est-ce que d'abord c'est un risque que le Rassemblement national prenne la ville? Et est-ce que, face à ce risque, vous demandez aux deux candidats LR, déjà en piste, eh bien, en quelque sorte, de cesser leur querelle?
Je préférerais qu'ils fassent un binôme. Si demain je suis élu président des Républicains, je trancherai. Et je crois qu'effectivement, dans cette ville qui est très importante, eh bien, il faut écouter les élus locaux sur place.
Demain, un débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale. Votre priorité, c'est quoi? C'est on en finit avec l'aide médicale d'État, on revoit le droit du sol en quelques secondes?
Ma priorité, ce serait de montrer que c'est une vaste esbroufe de la part du gouvernement. Et effectivement, revoir les conditions d'allocation sociale, il n'y a pas que l'AME, il y a aussi la CUMAC qui est donnée aux demandeurs d'asile, même quand ils sont déboutés. Eh bien, je crois que ces questions-là sont effectivement une pompe à immigration. Mais le sujet est très vaste et mériterait beaucoup plus qu'un débat.
Julien Aubert sur France Info ce matin, merci d'être passé. Merci beaucoup Jean-Jérôme Bertolus. On se retrouve demain avec Marc Fauvel et Renaud Dely. Bonne journée à tous. Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info, Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.